Bonjour, bienvenue pour le podcast numéro 5 qui sera consacré à un point sur le virus SARS-CoV-2 et l'épidémie qui lui est associée, la COVID-19. Et ce sera l'occasion aussi d'expliquer comment fonctionne la science dans cette crise. Je parle bien de la science, je ne vais pas parler de mesures politiques, européennes, internationales, voilà. Il va s'agir uniquement de la science pour notre enseignement de sciences de la vie et de la Terre. Alors, qu'est-ce que le SARS-CoV-2? Alors, c'est un virus qui appartient à la famille des coronavirus. Corona veut dire couronne, car ces virus ont une enveloppe à spicules qui donne un aspect de couronne. Et en latin, cette famille, ce sont les coronaviridae. Et à l'intérieur de cette famille des coronavirus, le SARS-CoV-2 appartient au bêta-coronavirus. Nous connaissons quelques coronavirus, à ma connaissance je crois que c'est 7. Essentiellement avant lui, le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, qui ont quelques petits points communs avec lui, notamment vis-à-vis de la porte d'entrée dans nos cellules, avec une interaction, on verra, entre une protéine S pour spike, une protéine S de l'enveloppe du virus, et les récepteurs ACE2. Qui se trouve sur les cellules épithéliales humaines. Ce virus est un virus à ARN simple brun qui a été identifié le 9 janvier 2020 à Wuhan, en Chine, suite à des premiers foyers de pneumonie en décembre. On a fait l'association entre ces pneumonies et le fait d'avoir ce virus à l'intérieur de l'organisme. Cet agent, donc viral, est celui de la pandémie de la COVID-19. La longueur du génome est de 29 903 paires de bases, hein, lorsqu'il est transformé, disons, en ADN. Le réservoir naturel du SARS-CoV-2, c'est la chauve-souris, hein, la famille des chiroptères. L'hôte intermédiaire vers l'humain, on ne sait pas encore très bien entre le serpent et le pangolin des marchés, il n'y a pas encore de certitude. Ce virus occasionne un certain nombre de symptômes très variables suivant les personnes, et parfois même une quasi-absence de symptômes, notamment chez les sujets jeunes, où l'Institut Pasteur nous a d'ailleurs très récemment indiqué que la mortalité chez les moins de 20 ans était de 0,0001%. Je redis bien 0,0001%. Il y a 95 à 98% de guérison spontanée. Et parmi les 2% restants, un certain nombre de personnes sont intubées et certaines placées en réanimation. Et l'âge moyen de décès pour le COVID-2, c'est, je crois, environ 69 ans. Et voilà. Il existe aujourd'hui deux catégories de tests. Les tests à ARN, qui correspondent à des écouvillons qu'on rentre à l'intérieur du nez profondément, on gratte pour aller chercher les particules virales. L'idée ensuite, c'est un test à RT-PCR, rétrotranscriptase, c'est-à-dire qu'en fait on va transformer l'ARN en ADN et on va pouvoir savoir si le virus est bien présent dans la partie que l'on a grattée, qui sont des cellules épithéliales sur lesquelles se fixent les particules virales. Le test marche à 70%. Hein. Les 30% d'échecs sont liés à la manière dont on va frotter et la capacité à arriver à aller chercher du virus, en fait. Elle n'est pas due, en fait, à la sensibilité même du test, qui est très très élevée. Alors, actuellement, des sérotests sont à l'étude. Les sérotests, on aimerait les préconiser lors de la phase de testing du déconfinement, à partir du 11 mai en France. L'idée, c'est de détecter les anticorps présents dans le sérum, qui est une fraction acellulaire incolore du sang. En fait, pour qu'un sérotest soit mis sur le marché, il faut qu'il ait 98% de spécificité de réaction avec le virus SARS-CoV-2, et puis 90% de sensibilité. Pour l'instant, voilà, différents sérotests sont à l'étude. Voilà. Alors, je vous fais part de deux choses qui sont importantes. D'abord, il n'y a pas de corrélation entre le titre d'anticorps et l'immunisation pérenne. On ne sait pas, en fait, à partir de combien d'anticorps détectables dans le sérum, on peut considérer que l'immunisation de la personne est pérenne, c'est-à-dire, on va dire, allez, pour au moins 2 ans, quoi, disons. Donc voilà, on ne sait pas. On sait que les gens n'ont pas les mêmes taux d'anticorps. On s'est également aperçu qu'il y avait 2 types d'anticorps. Il y a les neutralisants qui facilitent la phagocytose, hein, qui permettent d'éliminer le virus, mais il y a également des anticorps, en dehors des neutralisants, qui sont facilitants, c'est-à-dire qui peuvent, au contraire, permettre une plus grande entrée des virus qu'ils accrochent par leur paratope, hein, les 2 petites extrémités du Y que constitue un anticorps, eh bien en fait, ces facilitateurs, ces anticorps facilitateurs, apparemment, permettraient au virus de rentrer dans nos cellules. Donc voilà, il y a encore des inconnus là-dessus. On a quand même une hypothèse sur cette épidémie, c'est que le taux de contamination est... et symptômes dépendants, c'est-à-dire qu'il y aurait un lien entre la charge virale en termes de virus et l'intensité des symptômes ressentis. C'est la raison pour laquelle on peut penser, on n'en est pas sûr, que les enfants, qui donc ont généralement moins de symptômes, ou presque pas, ont moins de charge virale que des adultes. Alors ça, bon, on ne sait pas, puisque ces dernières semaines, on a dit tout et son contraire là-dessus. Prudence, on n'a pas de certitude. Alors, autre problème avec ces histoires d'anticorps et de sérotests, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre les anticorps neutralisants et facilitant l'entrée du virus. Les gens peuvent-ils être infectés? On ne sait pas bien. Aujourd'hui, les gens qui ont été détectés positifs à plusieurs semaines d'intervalle, au-delà de 15 jours où on aurait pu penser qu'il n'y avait plus trop de traces de virus puisqu'il n'y avait plus de symptômes et qu'on considérait que la personne était guérie. Oui, il y a eu des cas, notamment en Chine, mais on ne sait pas si c'est lié à la défaillance du test. Il y a toutes les raisons de penser, évidemment, qu'il y a une immunisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été atteint, on a des anticorps. Maintenant, pour combien de temps, avec quelle protection, on ne sait pas très bien. Donc une réinfection n'est pas exclue. On pense plutôt que non, mais on a une grande encore incertitude là-dessus. Ce qui se confirme en revanche, c'est que la présence de l'ARN viral sur une surface, par exemple du cuivre, par exemple un carton, par exemple du plastique, on a dit le cuivre 4 à 6 heures, le carton 24 heures et le plastique 3 à 4 jours, c'est pas parce qu'il y a de la charge virale, il y a de la présence du virus, qu'il est contaminant. Voilà. Alors, il y a 2 modes de transmission principaux. Le contact direct, d'où la nécessité de gestes barrières, c'est-à-dire laisser plus d'un mètre avec son interlocuteur, donc une distanciation physique. Moi, je préfère le terme de distanciation physique plutôt que distanciation sociale, parce que la distanciation sociale, on peut la limiter par des moyens de communication. Il est important qu'il y ait une communication intergénérationnelle dans ce moment où les personnes âgées sont isolées, où les personnes fragiles, malades, et psychiquement, hein, l'effet du déconfinement peut être effectivement négatif pour pas mal de personnes. Deuxième geste barrière, évidemment, tousser, éternuer en son bras. Et le port du masque, et évidemment le lavage des mains, puisque le deuxième mode de contamination se fait par des gouttelettes. Gouttelettes qui, généralement, finissent par se retrouver, si on touche par exemple un masque contaminé sur nos mains. Or, nous portons les mains au visage environ une centaine de fois par jour, et les portes d'entrée du virus sont les voies ORL, me semble-t-il les tympans, donc voilà, sont surtout nez, bouche, et ça passe par souvent les mains avant. Hein, donc effectivement, on sait bien l'importance de se laver les mains au gel hydroalcoolique lorsqu'on n'a pas accès à un point d'eau, et sinon au savon de Marseille ou au savon d'Alep, les deux anciens savons qui marchent très bien. J'ai même lu, je crois, dans une étude, on va confirmer hein, une équivalence d'efficacité, mais que le savon serait même plus rapidement efficace. Évidemment, pour ça, il faut se laver les mains pendant 20 à 30 secondes, l'intérieur des mains, l'extérieur des mains, entre les mains, puis ensuite avoir un double geste de rotation sur les paumes des ongles, et puis ensuite de passer les mains sur les pouces. Hein, donc, et d'aller un petit peu jusqu'au poignet, hein. Attendre quelques secondes, et puis ensuite, une fois qu'on s'est bien frotté, qu'on a attendu, passer les mains sous l'eau. L'idéal étant ensuite de se les éponger avec un papier absorbant qu'on jette immédiatement à la poubelle. Ça, c'est dans le cas où on soit contaminé et qu'on n'est pas seul à la maison. Voilà. Donc, deux modes de transmission principaux. On va aborder maintenant l'importance du confinement et des mesures barrières. Bah, c'est qu'en fait, comme ce virus est nouveau, il y a une absence d'immunité de groupe. Donc, dans les populations, l'immunité de groupe serait atteinte pour environ, on pense, 60 à 70% des personnes. En France, on estime qu'on serait, au moment du déconfinement, à peut-être 8% seulement de personnes en France qui auraient été contaminées. Donc, on est très 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 loin d'avoir une protection collective des populations. Ce ne sera pas via ce biais, évidemment, vraisemblablement, que s'arrêtera l'épidémie. Alors, quel est l'intérêt des gestes barrières du confinement et de la quarantaine des cas positifs ou suspectés car symptomatiques? Eh bien, c'est tout simplement de faire baisser le R0, qui est en fait le taux de contamination d'une personne vers d'autres personnes. On sait que le taux R0, c'est-à-dire le nombre de personnes que contamine un individu contaminé, est proche de 3,3. C'est donc un virus très contagieux. C'est le principal problème de ce virus. Les mesures de confinement et les mesures barrières visent à réduire le R0. L'idée étant que, en diminuant le R0, et au lieu d'avoir une courbe en cloche très nette, on va avoir une courbe très étalée, peut-être que ça ne changera pas le même nombre de cas au final, mais en tout cas, ça évite de déborder, évidemment, les capacités hospitalières, et notamment le nombre de lits, qui est un facteur déterminant dans l'état du pays face à la crise. Actuellement, on pense qu'au moment du déconfinement le 11 mai, on serait à un R0 proche de 0,5, c'est-à-dire qu'on est bien sous la barre des 1, c'est-à-dire qu'une personne n'en contamine que une demi. Ce qui, vous comprenez mathématiquement, mécaniquement, est en train, évidemment, de faire baisser la courbe du nombre de morts, et évidemment, ça nous dirige vers une fin d'épidémie. Alors, elle n'est pas pour demain, mais voilà. Ces mesures barrières permettent également, quand on va se déconfiner, l'idée c'est de, en maintenant des gestes responsables à l'échelle individuelle et collective, de limiter des éventuels pics numéro 2, 3 ou 4. L'idée étant de ne jamais avoir le système de santé débordé. On a été proche d'être débordé, ça s'est joué à très peu, quelques heures près, que jours plutôt. Ça, ce sont ce que nous ont renvoyé les CHU à travers la France, hein, notamment à l'Est, en Ile-de-France. Hein, vous savez que c'est essentiellement certains départements qui ont été touchés plus que d'autres, hein, en raison des différents clusters. Alors, bon, le mythe de la personne contaminée en premier, hein, le patient zéro, on pense qu'il y a eu une contamination multiple à travers différents points de départ dans notre pays comme dans d'autres. Alors, où en est-on sur les solutions? Il y a évidemment une course aux antiviraux et aux vaccins. Il y a donc recherche active d'un vaccin hein, qui va prendre du temps, parce qu'il y a une longue phase de développement. Pasteur nous a dit qu'ils en avaient au moins pour un an, hein, pour l'Institut Pasteur. Alors je sais qu'il y a déjà des vaccins qui sont testés sur patients humains en Angleterre, on verra. Hein. Et évidemment, on est dans l'urgence. Parfois, on peut accélérer les niveaux de contrôle des tests, mais on ne peut pas, évidemment, passer au travers de la méthodologie clinique, parce qu'on ne peut pas donner à des populations des molécules actives qui ne seraient pas efficaces ou dont les effets secondaires pourraient être très délétères. Les gens ne sont pas des cobayes et la priorité absolue, c'est évidemment leur santé. Actuellement, différents traitements sont à l'étude partout dans le monde. Il y a des pistes potentielles. On est parti de molécules qui pouvaient être efficaces in vitro, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont efficaces in vivo. Alors évidemment, donc je disais, en situation d'urgence, même si on peut accélérer certaines étapes, il ne faut pas griller toutes les étapes de sécurité. Il y a une balance bénéfice-risque qui est un principe de précaution. Alors, actuellement, il y a deux grandes études internationales qui ont été faites. Alors, il y a un projet européen qui est l'étude Discovery, qui a pris un peu de retard et qui a des défauts de communication entre les pays, mais qui en fait teste différentes molécules candidates sur des groupes, à chaque fois deux groupes, hein, c'est-à-dire un groupe contrôle qui n'a pas accès à la molécule, mais qu'on soigne par les meilleurs moyens possibles, les standards of care, ils sont soignés, et puis un groupe qui va avoir la molécule qui est testée. Pour ça, on fait une répartition aléatoire d'un nombre important de personnes, tous âges, sexes et états de santé équivalents confondus. C'est-à-dire que même si la répartition est aléatoire, au bout d'un certain nombre d'individus, quand vous les mettez aléatoirement dans les deux groupes, vous vous retrouvez avec deux groupes qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Ça va limiter les biais, c'est-à-dire les erreurs que vous pouvez avoir dans une étude observationnelle comme celle du professeur Didier Raoult, où il n'y a pas de groupe contrôle, c'est-à-dire qu'on a beau multiplier le nombre de personnes sur lesquelles on a fait baisser la charge virale et traiter les patients, dans son cas avec l'hydroxychloroquine associée à l'antibiotique azithromycine, mais il n'y a pas de groupe contrôle, donc il est difficile de savoir l'efficacité de son traitement. Ainsi, une étude observationnelle juste sur des cas qu'on traite, sans groupe témoin, ne permet pas d'avoir la possibilité d'affirmer de manière fiable que le traitement est efficace. Même si on peut penser avoir des intuitions, les moyens de le penser, parce qu'on réduit rapidement la charge virale, voilà. Alors, l'étude Discovery, donc, elle est essentiellement française, luxembourgeoise, mais elle est européenne. Il y a aussi une grande étude internationale qui s'appelle Solidarity, et qui est mise en œuvre par l'OMS. On va y retrouver le Canada, qui participe, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, l'Argentine, etc. Donc l'OMS se charge également, dans cette crise du Covid, d'intervenir. En ce qui concerne donc l'étude Discovery, on prend des patients de plus de 18 ans et en état modéré à sévère. Alors on n'est pas en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a bien deux groupes de personnes, une qui prend un traitement et pas l'autre, mais on n'est pas en double aveugle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas où le prescripteur, le médecin, ou le clinicien et les patients savent ce qu'ils prennent. Hein, le double aveugle, c'est ni celui qui donne, ni celui qui prend ne sait s'il prend un comprimé où il n'y a rien, ou un comprimé où il y a la molécule qu'on teste. Alors, ça aurait été encore mieux. Pourquoi on ne fait pas de double aveugle? Certainement, à mon avis, parce qu'on a une banque importante de données sur des gens qui ont été soignés uniquement en Doliprane. Voilà, ce qui peut correspondre à un groupe. Voilà. Alors, l'intérêt du double aveugle, c'est que ça limite l'effet placebo, c'est-à-dire une guérison psychologique sans principe actif. Puisque dans le cas où on fait un double aveugle, on sait que personne ne sait si ce qu'il prend est le médicament ou pas. Donc ça permet de couper l'éventuel effet placebo. Donc voilà, dans le cas de Discovery, il n'y a pas le traitement exact du professeur Raoult, mais l'hydroxychloroquine, enfin la chloroquine a été rajoutée dans les bras de traitement. On appelle un bras une molécule candidate. Au début, il y avait trois bras de traitement dans l'étude Discovery. On utilisait un antiviral anti-Ebola, qui est le remdesivir. On utilise donc depuis notamment la médiatisation de la préconisation du docteur Raoult, on a rajouté en quatrième bras la chloroquine, mais effectivement pas nécessairement au même stade précoce que lui, et sans association avec l'azithromycine. Donc l'étude Discovery ne répondra pas à la question, le traitement du docteur Raoult est-il efficace? Et puis il y a un troisième bras qui est celui qui consiste à tester une molécule candidate qui est anti-HIV, donc l'association lopinavir et ritonavir. Voilà, donc ce sont les principaux bras de l'étude, les quatre. Alors, ce que l'on peut dire, cette importance de faire une randomisation, c'est-à-dire une répartition aléatoire en deux groupes, dont un qui est un groupe contrôle, c'est la base de la méthodologie clinique. C'est important pour savoir si quelque chose est efficace ou pas. On l'utilise pour tous les médicaments. C'est une méthode statistique qui a fait ses preuves et qui réduit les erreurs possibles. Je vous donne des exemples dans l'histoire. Par des études randomisées, donc qui ont une fiabilité bien plus élevée qu'une simple étude observationnelle où vous donnez un médicament à un groupe sans groupe contrôle qui ne le prend pas. Pour vous montrer dans l'histoire des échecs et des réussites, quand on va trop vite, qu'on fait mal ou qu'on ne fait pas des études suffisamment fiables, bah par exemple, le thalidomide, qui était un antinauséeux, a été donné à des femmes enceintes et ça a entraîné des malformations de nouveau-nés en nombre significatif, car en fait l'étude clinique préalable était incomplète sur cet antinauséeux. Et vous voyez que donc ça peut entraîner parfois, rarement, très rarement, des catastrophes de mettre sur le marché et d'utiliser des médicaments lorsque les études ont été, pardon, incomplètes. Donc prudence, prudence, prudence. La science, c'est les faits, les preuves et un fonctionnement collectif. Voilà. Il ne faudrait pas non plus évidemment que les effets secondaires soient plus importants que diminuer et éliminer les symptômes de la Covid. Ces études en double aveugle et donc en randomisation en double groupe, double randomisation, permettent d'établir la pharmacovigilance, c'est-à-dire savoir combien de cas sur combien vont développer tel type d'effet secondaire. L'aspirine, par exemple, au cours de l'histoire, a pu, par une double randomisation, montrer une efficacité significative sur la survenue de crise cardiaque. Et donc, voilà un exemple dans l'histoire où la double randomisation nous a permis de confirmer l'intuition que l'aspirine était anti-crise cardiaque chez des sujets à risque. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Concernant les masques, alors vous savez qu'il y a des masques artisanaux et chirurgicaux, il y a les FPP1, 2, 3, 4. À partir des FPP2, 3, 4, ça protège dans les deux sens. Est-ce que le masque est utile? Bien sûr que oui. Le masque, en fait, fait tout de même une légère barrière. Il empêche vos postillons d'aller chez les autres. Donc c'est plutôt, en fait, une courtoisie vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que vous protégez les autres en vous mettant un masque. Et si tout le monde met un masque, on contribue à réduire le R0, à contrôler les pics, et à ce que, évidemment, notre curseur, qui est le nombre de lits disponibles à l'hôpital, baisse et ne soit jamais dépassé, hein, qu'on ne soit pas en surcharge à l'hôpital, pour soulager le personnel soignant, physiquement, psychiquement, puisqu'il est exposé et qu'il peut aussi lui-même ramener, comme d'autres travailleurs pendant le confinement, le virus à la maison. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épidémie au stade où nous en sommes. Discovery a pris un léger retard. Certains disent par manque de patients pour les traitements devant la médiatisation de celui de l'hydroxychloroquine. Bon, et puis il y a des petites difficultés apparemment de coopération entre les pays. Chacun fait un peu ses études dans son coin. Alors évidemment, ça coopère, ça parle, ça échange, mais pas assez bien et pas au rythme où on l'aurait souhaité pour l'instant. En tout cas, l'étude Discovery nous donnera, avec un niveau de fiabilité assez élevé, d'éventuelles réponses à quels sont les traitements efficaces. Voilà ce qu'on pouvait dire, voilà le point que l'on pouvait faire. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par Discord, hein, puisque comme je le préciserai sur le blog, ce podcast qui va donc faire, je vois, 25 minutes, s'adresse aux premières spécialités, parce que j'ai quand même parlé un peu du système immunitaire, il faut avoir vu un peu l'immunité innée et adaptative pour comprendre certaines choses que j'ai dit au début. Voilà. Évidemment, je n'ai pas tout traité actuellement. On va peut-être aussi passer par les anticorps des lamas, hein, qui ont des anticorps un peu comme nous, mais aussi des anticorps un peu plus petits, qui semblerait-il peut-être seraient un peu plus neutralisants des antigènes présents sur l'enveloppe du virus. Notamment aurait une action peut-être un peu plus fluide et efficace de par cette petite taille vis-à-vis du marqueur de surface, la protéine S. S pour Spike. Merci, bonne journée.